Seigneur Jésus, ouvre notre esprit maintenant, ouvre mon esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Car tu es ce bon berger, tu nous as rachetés par ton sacrifice sanglant sur la croix. Nous sommes à toi, nous voulons faire ta volonté, celle qui est bonne, agréable et parfaite, car tu es le Seigneur et nous sommes tes serviteurs. Oh, nos yeux sont sur toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Nous t'aimons, je t'aime. Je t'adore de tout mon cœur. Oh, Jésus, Jésus, à toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. J'aimerais dire quelques mots sur ce qui est la sève même, la vie même de la vie chrétienne et tout spécialement de la résurrection. Tout spécialement de la résurrection. Pour cela, nous allons lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, au dernier chapitre, Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Hébreux 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Soulignez bien cela. Comment il a été ramené à la vie? Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. S'il vous plaît, notez cette relation qui existe entre la résurrection de Jésus et le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Autrement dit, les deux, le sang de Jésus et la résurrection de Jésus sont intimement liés. La raison est simple. Jésus ne pouvait pas ressusciter des morts si son sacrifice sanglant n'avait pas été accepté par le Père. Amen. Mais parce que son sacrifice sanglant a été accepté par le Père pour la rémission de nos péchés, alors Jésus n'avait plus à rester dans le tombeau. L'œuvre a été parfaitement accomplie et il est ressuscité des morts. Alléluia! Comme une confirmation que l'œuvre de la croix est parfaite, que le sang versé pour tes péchés, pour mes péchés, a été accepté par le Père. Amen! Et voilà pourquoi Jésus est ressuscité des morts. Savez-vous que si son sacrifice, si son sang versé n'avait pas été accepté par le Père, il ne serait pas ressuscité des morts. Mais sa résurrection dépend de son sacrifice, n'est-ce pas vrai? La résurrection dépend donc de la compréhension de l'œuvre de la croix et tout spécialement du sang de cette alliance éternelle. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est vous donner quelques pensées sur le sang de Jésus. Dans le Lévitique, il nous est dit que la vie de toute chair est dans le sang. Nos versions ont l'âme de toute chair est dans le sang. Mais des versions anglaises ont la vie de toute chair est dans le... Il y a bien des années, les scientifiques ne croyaient pas en cela. Les scientifiques croyaient que la vie de quelqu'un dépendait de la nourriture qu'il mangeait, par exemple, ou de l'air qu'il respirait. Mais ils n'avaient pas compris que la vie... Maintenant qu'ils l'ont compris, la Bible nous l'avait déjà donné des siècles à l'avance. Et j'aimerais donc donner quelques pensées sur la réalité de ce sang pour nous, en prenant un peu l'image de ce que représente le sang pour notre propre corps. Je n'emploierai pas des termes médicaux parce que je ne suis ni médecin, ni infirmier, ni quoi que ce soit. Alors je demanderai pardon à s'il y a des docteurs ou infirmières au milieu de nous qui auraient peut-être les termes plus appropriés. Mon intention n'était pas de vous donner un cours médical sur le sang, mais de donner quand même quelques pensées sur ce qu'est le sang dans notre corps, sur ce que fait, sur les fonctions du sang dans notre corps.
Et si nous comprenons tant soit peu ce que le sang représente pour notre corps, nous comprendrons ce que le sang de Jésus représente pour son corps, qui est l'Église. Amen. Une des premières, et je donne encore un autre verset, Hébreux 9, 22, vous pouvez bien souligner cela. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de... Sans effusion de sang, il n'y a pas de... Ça, c'est une vérité que beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent pas. Bon, que les gens du monde n'acceptent pas cette vérité, on comprend, n'est-ce pas? Mais savez-vous que même dans l'Église, certaines personnes, certains théologiens, entre guillemets, n'acceptent pas la mention même du sang de Jésus, vous le savez. Notre frère l'a bien dit hier, la ruse de l'ennemi n'est pas tellement quand il vient de l'extérieur, mais c'est quand il se manifeste de l'intérieur. Et l'ennemi fait tout pour minimiser la valeur de ce sang. Chers amis, nous ne comprendrons bien sûr pas tout ici-bas sur ce que le sang représente pour notre Père, pour le Seigneur. Nous ne comprendrons pas tout. Mais là-haut, un jour, nous comprendrons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Tout était purifié selon la loi par le sang. Il n'y a rien qui peut être purifié sans. C'est pourquoi le sang dans notre propre corps est vital. Le sang fait tout. Lorsque le sang est malade, le sang est absolument vital, primordial. Et quelle est une des premières fonctions du sang dans notre propre corps? C'est de favoriser l'élimination de tous les déchets. Ça, c'est une des premières fonctions de notre... Et les médecins eux-mêmes le disent, que la cause des 9 dixièmes des maladies aujourd'hui, c'est ce manque d'élimination. Les gens n'arrivent plus à éliminer les déchets normaux. On n'arrive plus à éliminer normalement. Et ce manque de purification intérieure produit tout un tas de maladies. Donc le sang est là pour purifier notre système et favoriser l'élimination. Que quelqu'un humainement n'arrive plus à éliminer, c'est très dangereux pour sa propre santé. Alors, et si c'est là la cause de beaucoup de maladies physiques, une des premières fonctions du sang de Jésus, c'est de nous purifier. 1 Jean 1,7, vous connaissez ce verset. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de chaque péché. Le verbe continuer dans le texte là est un au présent. C'est un présent continu. Ce n'est pas le sang qui nous purifie seulement lorsque nous nous convertissons. Beaucoup de chrétiens sont perdus. Ils ont bien confiance dans le sang de Jésus pour pardonner leurs péchés lorsqu'ils se convertissent. Mais après, lorsqu'il leur arrive de faire une faute, ils sont perdus. Ils disent ça y est. Ils ne savent pas comment rester purs devant Dieu. Et ils se lamentent, et ils pleurent, et ils font tout un tas de choses pour essayer de mériter ce pardon. Ils jeûnent, ils font des sacrifices, ils se flagellent, ils font des vœux, ils font tout un tas de choses. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, purifie-moi. Et il n'y a pas de purification si nous ne réalisons pas que la fonction du sang de Jésus est non seulement de nous purifier lorsque nous nous convertissons, mais c'est de nous garder continuellement dans une purification constante. Amen. Constamment, constamment, le sang de Christ doit nous purifier. Et c'est pourquoi le secret de la purification, c'est de venir à la lumière toujours. Si nous marchons dans la... Le sang de Jésus agit toujours dans la lumière. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres. Il n'agit pas dans les ténèbres. Il chasse les ténèbres. Amen. Ceci est très important. C'est pourquoi lorsque Jésus, qui était la lumière, est venu dans ce monde, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Parce que la lumière met en évidence les ténèbres. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas cela. Mes amis, si l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, l'Esprit de Dieu qui est un esprit de lumière, mettra en évidence les ténèbres qui sont en vous. Mais il y a deux réactions à ça. La première qui est la bonne. Seigneur, merci de me montrer ce qui ne te glorifie pas encore dans ma vie. Je viens à la lumière. J'accepte que ce que tu as mis à la lumière dans ma vie maintenant, j'accepte que tu le fasses. Je te demande pardon pour cela. Et je te demande la purification. Et vous serez purifiés. Mais il y a une autre réaction. C'est l'autre réaction négative. Hein? Non. Pas d'accord. C'est pas vrai. Non. Je suis pas bien ici. Je me sens pas à l'aise ici. Quand Dieu commence à nous montrer ce qui va pas, au lieu de faire face à notre péché, on regarde au péché des autres. Et tout de suite, on veut justifier comme ça. Dieu vient nous montrer notre péché. Mais on n'est pas droit devant Dieu, on n'est pas droit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si on n'est pas droit, on est tordu. Et quand on est tordu, ben, au lieu de regarder à soi, on regarde aux autres. On n'arrive pas à se regarder à soi-même, on regarde les autres, on est tordu. Et on voit le péché des autres. Et on cherche toujours quelque chose pour se justifier, n'est-ce pas vrai? On est tous les mêmes. N'est-ce pas? On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Et laissez-moi vous dire une chose, si vous voulez trouver les fautes des autres, alors vous en trouverez. Et vous ne ferez rien d'extraordinaire de voir les fautes des autres. Vous ne ferez rien d'extraordinaire. Et n'allez pas dire que vous avez une révélation particulière en voyant les fautes des autres. Oui, oui, mais il y en a. Quand ils vous parlent, c'est un peu comme cela. Bon, tu sais, j'ai une révélation. Ils ont toujours la révélation de ce qui ne va pas chez les autres. Mais ils n'ont jamais la révélation de savoir ce qui ne va pas en eux. Jamais. Ils ont toujours la révélation sur les autres, mais jamais sur eux. Hein? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là. Toujours chez les autres, ils voient toujours ce qui va. Mais soi-même, voilà, un petit ange, c'est parce qu'il résiste au Saint-Esprit. C'est parce que Dieu, lorsque Dieu nous montre quelque chose dans son amour, ce n'est pas pour nous condamner. Amen. Ce n'est jamais pour te condamner, c'est pour te purifier. C'est pour que ton image de Jésus grandisse en toi. C'est pour que tu deviennes plus semblable à Jésus. Le péché déforme l'image de Jésus en nous. Le péché déforme. C'est pourquoi il nous faut être droit. La première fonction du sang, c'est de nous purifier. Et nous en avons constamment besoin, mes amis. Réjouissez-vous! Réjouissez-vous de ce que la purification peut se faire! Parce que si vous n'acceptez pas d'être purifié continuellement, c'est la maladie qui vous guette. Vous allez empoisonner votre système. Vous allez être empoisonné un jour, peut-être ce sera trop tard. Le sang de Jésus fait cela. C'est un sang qui purifie. Dans le texte anglais, c'est encore plus fort que purifier, c'est purger. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça purge, il ne reste plus rien du tout. On récure dans tous les coins. Une bonne purge spirituelle, ça fait du bien. Amen. Ça nous affaiblit un peu après une purge. Mais c'est une bonne faiblesse, ça aussi. On redevient nous-mêmes faibles. Et c'est alors que la puissance de Dieu s'accomplira dans notre faiblesse. Amen. Mes amis, continuellement, nous devons accepter cette purification. Pas seulement le jour de ta conversion, pas quelques jours après. Pas pendant un mois, deux mois, trois mois, mais continuellement. Continuellement, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Mes amis, c'est encore le sang qui nous purifie. Amen. Encore le sang. Nous devons constamment avoir cette sensibilité à l'égard du péché. Un des problèmes aujourd'hui, un des fléaux, un des malheurs de notre génération, c'est qu'on est plus sensible au péché. On n'est plus choqué par le péché. N'est-ce pas vrai? On est plus choqué. Le péché ne nous choque plus. On s'est habitué. Et on n'élimine plus. Et c'est l'empoisonnement spirituel. Mes amis, si nous voulons que l'Esprit de Dieu reste sur nous, il faut constamment accepter la purification de ce sang dans nos vies. Amen. Et le sang de Jésus continue. Voyez-vous, c'est un verbe, un présent continu. Continue de nous purifier de chaque péché. Il est dit du péché, mais dans le texte grec, c'est de chaque péché. Il n'y a aucun péché que Jésus ne veut pas purifier. Amen. Il n'y a pas de petit ou de grand péché, mais tout à la lumière. Ne discutons pas avec Dieu, mes amis, ne discutons pas. Ne comparons pas aussi nos péchés avec les autres péchés, ou avec le péché des autres. Ne comparons jamais. Le péché, c'est le péché, et le péché nous sépare de Dieu. C'est pourquoi certains ont ce sentiment de solitude, ce sentiment de séparation, et de Dieu et des autres. Vous savez ce que la racine de ce problème, c'est mettons tout à la lumière. Le psychologue ou le psychiatre ne dira jamais cela. Au contraire, il vous dira, mais qu'est-ce que c'est que ça le péché? Ça c'est des vérités du Moyen-Âge. Et malheureusement, beaucoup boivent à cette boisson empoisonnée. Et ils se détruisent eux-mêmes. Au lieu d'être purifiés, ils s'empoisonnent. Mes amis, quelle grâce quand nous pouvons être purifiés. Amen. Purifiés. Oh, le sang coule. Le sang a coulé à la croix. Le sang est encore puissant aujourd'hui pour nous purifier. Viens à la croix, viens à la lumière. Viens, viens. Dis tout à Jésus, viens. Et il te purifiera. Et la paix viendra dans ton cœur. Amen. Il n'y a pas de paix possible tant que nous ne mettons pas tout à la lumière et dans la lumière. Gloire au Seigneur. La purification. Mes amis, jusqu'à la fin de notre vie, nous en aurons besoin. Est-ce qu'à chaque instant, Tu élèves ton cœur à Dieu, ô Seigneur. Pardonne, purifie-moi de cette mauvaise pensée. Purifie-moi de cette mauvaise parole. Nous devons arriver à un tel point que nous sommes sensibles. Seigneur, ça, c'est affreux. Pardonne-moi. Seigneur, cette parole ne te déplaise. Pardonne, purifie. Et constamment, constamment, la communion avec lui sera maintenue. Amen. Il n'y a pas besoin d'attendre une autre convention. Il n'y a pas besoin d'attendre la visite d'un prédicateur spécial. Il n'y a pas besoin d'attendre je ne sais quoi pour être purifié. Continuellement, vous pouvez l'être et vous devez. Amen. Le sang élimine. Le sang purifie. Nous avons besoin de purger.
Une autre fonction du sang dans notre corps. Le sang est là pour nourrir toutes les cellules de notre corps, n'est-ce pas?
C'est le sang qui fait ce travail-là. Le sang est là pour non seulement purifier, éliminer, mais aussi nourrir. Et le sang, c'est un miracle, là, personne ne peut expliquer cela. Le sang, donc, donne cette nourriture selon les besoins de notre corps. Et avec la bonne proportion. C'est un miracle. Personne ne peut expliquer. Les scientifiques sont là, ils voient cela. Le sang, c'est un vrai miracle. Le sang donne cette nourriture, mais selon nos besoins particuliers et selon aussi la bonne proportion. Il n'en donne pas plus qu'il ne faut, il donne exactement ce qu'il faut. À chaque cellule, le sang nourrit toutes les cellules. Le sang n'oublie personne. Le sang va jusqu'au bout des cellules. C'est là la deuxième fonction du sang de Jésus. C'est de nous nourrir, nous les cellules du corps de Christ, selon nos besoins et avec la bonne proportion, selon nos besoins et aussi bien dosé. Amen. C'est le dosage parfait. Alléluia. Et savez-vous que, je l'ai lu cela, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas médecin. Mais paraît-il que le sang donc, fait le tour de notre corps entre 40 et 50 secondes. Ceci pour vous dire qu'en une cinquantaine de secondes, le sang a nourri tout le corps et ça recommence. Continuellement, voyez-vous, le sang continuellement nourrit selon les besoins. Aucune cellule n'est oubliée. Et avec la bonne proportion. Regardez-moi cela. Le sang de Jésus, c'est cela. La vie de Jésus. Le Seigneur est là. Nous sommes tous les cellules de son corps. Et il prend soin. Il nous donne à chacun ce dont nous avons besoin. Et avec la bonne proportion. Amen. Comment pouvons-nous dire, Seigneur, tu ne prends pas soin de moi. Tu ne m'as pas donné à manger pendant cette convention. C'est faux. Il t'a donné à manger, mais toi, tu n'as pas voulu manger. Tu n'étais pas prêt à recevoir ce qu'il voulait te donner. Toi, tu voulais des vitamines A et lui voulait te donner des vitamines C. Tu voulais des vitamines ABC et lui voulait te donner des vitamines XYZ. Tu avais déjà fait ton petit calcul. Et naturellement, tu n'as pas pris ce que lui avait préparé. Ne l'oublie pas, le sang donne exactement ce dont tu as besoin. Toi-même, bien souvent, tu ne connais pas tes besoins. On a des besoins, mais dans le fond de nous-mêmes, on se trompe combien de fois, n'est-ce pas vrai? Combien de fois on se trompe? Oh, le Seigneur aime chacun d'entre nous ici. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Vous êtes une cellule, nous sommes une cellule, chacun pour notre part dans le corps de Jésus. Et Dieu prend selon les besoins, selon vos besoins, selon vos aspirations. Dieu est là et il veut vous donner cette nourriture. Amen. Alléluia. Votre Père sait que vous en avez besoin. Matthieu chapitre 6. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses matérielles, le pain, le logement, tout ce qu'il nous faut. Il nous le donne par-dessus. Il dit que ces choses-là, le pain, le logement et tout cela, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais si nous sommes chrétiens, nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Et s'il sait que vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de lui faire des discours. Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. Alléluia. Et il s'en occupe. C'est la fonction du sang. C'est un miracle, c'est un mystère. Le sang va partout. Là, plus de A. Là, moins de B. Là, plus de C. Alors, et c'est ainsi que le travail se fait, que Dieu nous nourrit. Mes amis, Dieu n'oublie personne ici au milieu de nous, personne. Nous ne nous vous connaissons pas tous, mais Dieu n'oublie personne. Oh, si nous pouvions tout simplement accepter cette vérité. Mes amis, acceptons cette vérité. Seigneur, tu me nourris et tu me donnes selon ce dont j'ai besoin, avec la bonne proportion et le bon dosage. Merci, Seigneur. Alléluia. Au lieu de venir devant lui et dire, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Ça fait 15 ans que j'attends. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? On reproche, on fait des reproches à Dieu, comme s'il ne s'intéressait pas à nous. Nous faisons Dieu menteur, nous le déshonorons. Alors que la fonction du sang est de nous nourrir et de nourrir toutes les cellules. Et il nous visite, il vous donne ce dont vous avez besoin. Amen. Croyez-le, croyez-le. L'Esprit de Dieu est là. Quand l'Esprit de Dieu est là et que nous sommes ouverts et que nous recherchons premièrement son royaume et sa justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen. Dieu ne veut renvoyer personne à vide au milieu de nous. Personne, personne. Si vous repartez à vide, c'est parce que vous n'avez pas pris ce qu'il voulait vous donner. Il vous aime tant, il sait ce dont vous avez besoin. N'ayez pas les regards sur vos besoins, ayez les regards sur lui. Alléluia, sur la source, Jésus qui est la source. Regardons à lui, adorons-le, bénissons-le, et lui fera le reste. Amen. Gloire au Seigneur, ne sois plus obsédé par tes besoins. Dieu sait très bien ce qu'il doit faire. Fais-lui confiance. Toi, glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Mais tu comprends pas, mon frère, tu parles bien à toi. Mais tu comprends pas mon problème. Il est spécial, le mien. Et chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, chacun dit que son problème est spécial. Je savais pas qu'il y avait beaucoup de spécialistes au milieu de nous. Beaucoup de spécialistes. Chacun a un problème spécial. Mais nous avons un grand spécialiste au milieu de nous. Alléluia! Alléluia! Il est spécialiste dans tous les problèmes, tous les besoins, toutes les maladies. Alléluia! Et il s'intéresse à toi. Je crois que cela peut nous guérir de toute amertume, tout ressentiment, tout pourquoi, toute question que nous posons à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Mes amis, il t'aime. Il sait ce dont tu as besoin. Fais-lui confiance. Passe ton temps à le bénir, à l'adorer, à le louer. Et tu verras combien sa vie pénétrera dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Amen. Il ne veut pas seulement nourrir ton esprit, mais il veut nourrir ton esprit, ton âme et ton corps. Gloire à Dieu. Car sa vie veut pénétrer dans tout notre être. Gloire au Seigneur. Troisième fonction du sang. Le sang est là pour contrôler la température. Le sang est un contrôle. Quand il fait froid à l'extérieur, le sang réagit de telle sorte que vous ne geliez pas. Il y a une réaction de votre sang. Et quand il fait trop chaud, inversement, le sang aussi réagit pour que vous vous sentiez quand même bien. Voyez-vous, le sang est là comme un stabilisateur. Le sang est là pour contrôler notre température. Et je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur doit contrôler dans nos vies? Et j'ai pensé à une chose qui est un problème un peu pour tout le monde. C'est qu'il doit y avoir le contrôle, voyez-vous, c'est une question d'équilibre. Et le sang vient équilibrer notre corps. Et le sang de Jésus vient aussi pour nous équilibrer spirituellement. Parce que malheureusement, par nature, nous sommes tous des déséquilibrés spirituels. Il y a tout spécialement un verset qui est important dans Éphésiens chapitre 4, verset 15. Il nous est dit de professer la vérité dans la charité. Afin que nous croissions à tous égards par Christ qui est notre chef, notre tête. Voyez-vous ici, il est dit, il y a un équilibre, il y a une température qui est équilibrée. Nous devons professer la vérité dans la charité. Et si, je pense que vous êtes d'accord avec moi, un des grands problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est le déséquilibre entre la vérité et la charité. Alors il y a les uns, vous êtes d'accord avec moi, c'est la charité, c'est l'amour à outrance. C'est l'amour, c'est l'amour. Jésus a dit qu'il faut s'aimer, bien sûr qu'il a dit qu'il faut s'aimer. C'est l'amour, c'est l'amour. Alors, il n'y a que l'amour. On a l'impression que dans la Bible, il n'y a que ce verset. Il n'y a rien d'autre. Ah, mais c'est l'amour. Oui, c'est un amour qui justifie le péché. C'est un amour qui fait des compromis. C'est un amour qui accepte n'importe quoi. C'est l'amour. Il faut aimer. Même si quelqu'un est dans l'erreur, même si quelqu'un est dans une fausse doctrine, dans une fausse religion, c'est l'amour. Il faut l'aimer. C'est-à-dire qu'il ne faut rien dire. C'est l'amour. Mais il n'y a pas la vérité. Il y a l'amour, mais pas la vérité. Est-ce que c'est un bon équilibre? Et malheureusement, ils aiment les gens, mais ils n'osent pas leur dire la vérité. Et laissez-moi dire une chose. Si vous n'aimez pas dire la vérité à quelqu'un, c'est que vous ne l'aimez pas vraiment. Et que tout votre amour, c'est du sentiment, c'est de la sentimentalité, mais ce n'est pas de la... Quand on aime vraiment quelqu'un, dites-moi un petit peu, on lui dit la vérité. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Mais vous lui dites la vérité dans l'amour, bien sûr. La preuve que quelqu'un, que vous aimez quelqu'un, c'est que vous lui dites là. Si vous n'êtes pas prêt à lui dire la vérité, vous ne l'aimez pas. Ne dites pas que votre amour, c'est le véritable amour. En tout cas, ce n'est pas l'amour biblique. Ce n'est pas l'amour de Jésus. Jésus, pourquoi est-il mort? Parce qu'il a dit la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'avait pas dit la vérité, on l'aurait bien laissé tranquille. S'il avait dit, comme tout le monde maintenant, comme beaucoup même de chrétiens le font, « Oh, il faut s'aimer, aimons-nous. » pas de discussion, pas de rien du tout. Je ne veux pas dire qu'il faut tomber dans les skis, mais enfin, il faut faire la paix avec tout le monde. Aimer, l'amour. Jésus n'aurait jamais été crucifié s'il était d'accord avec tout le monde. Voyez-vous, c'est, il y a l'amour, mais sans vérité. Ça, c'est un... Et quand le corps est déséquilibré comme ça, quand il y a la maladie, vous savez comment le corps se manifeste quand il y a une maladie en nous? Par de la fièvre. La température. Alors notre corps est loin d'être en bonne santé, il commence à être fiévreux. On n'est pas en bonne santé, on a de la fièvre. Il ne faut pas confondre la fièvre avec la chaleur du Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui confondent un peu. La chaleur du Saint-Esprit avec la fièvre qui provient de la maladie. Dans la fièvre, il y a toujours un déséquilibre. Il y a le mal, il y a la maladie, il y a un déséquilibre. Mais dans la chaleur de l'Esprit, il y a un équilibre. Amen. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceux qui sont les défenseurs de la vérité. Alors ils vous prêchent la vérité à coup de matraque. Ah oui, à coup de matraque. Dieu a dit, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, vous serez perdu. Vous ne pouvez être béni. Vous ne pouvez recevoir la bénédiction de Dieu si vous ne faites pas ceci, cela. Et c'est pas possible. Dieu a dit cela. Mais il y en a qui parlent comme ça. C'est affreux. C'est des coups de matraque. Pam, pam, pam. Vous n'en sortez pas. C'est la vérité. Ce qu'ils disent est vrai. Mais ils le disent dans un mauvais esprit. Et il n'y a pas l'amour. On dit la vérité, mais on n'aime pas les gens. Vous n'avez pas le droit de dire la vérité à quelqu'un si vous n'aimez pas cette personne. Amen. Vous ne pouvez pas dire la vérité à quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Parce que la personne le sentira, n'est-ce pas vrai? La personne le sentira. On le sent quand quelqu'un est aimé, n'est-ce pas? Vous le sentez quand quelqu'un vous aime. Et alors on accepte plus facilement la vérité par quelqu'un qui nous aime, n'est-ce pas? La vérité. Alors c'est l'autre déséquilibre. C'est une vérité sans amour. On matraque continuellement. Mais on n'aime pas les gens. Et il y en a beaucoup comme cela, malheureusement. Voyez-vous, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'équilibre. Ce sont les chrétiens qui ont la tête chaude et le cœur froid. Pour avoir un bon équilibre, vous savez ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un cœur chaud et une tête froide. Un cœur chaud, oui, ça c'est l'amour. Une tête froide, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est le bon équilibre. Mais si vous commencez à avoir la tête chaude, alors ça ne va plus du tout. La tête chaude, vous voyez, c'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre, c'est la fièvre. C'est la vérité qui est mise de côté. Là encore, le Seigneur voudrait rééquilibrer cela. Avoir une tête froide et un cœur prêchant la vérité dans la charité. Amen. Ça, c'est très... Quatrièmement, une quatrième fonction du sang, le sang nous protège. Le sang nous défend des microbes et des virus qui pourraient se balader. Le sang est un protecteur. Dès qu'il y a une certaine maladie qui rôde, le sang est tout de suite là pour réagir, pour repousser le mal. Et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout de suite là pour résister aux assauts du diable et aux malins. Amen. Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu à cause du... sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12:11. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le sang, voilà ce qu'il fait le sang. Il nous protège, il nous défend. Quand une maladie est là, il y a une opposition. Et le sang de Jésus nous rappelle que... nous avons reçu une puissance supérieure à la puissance du malin. Que le malin a été vaincu. Alléluia! Que le malin n'a plus de pouvoir sur nous. Mais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Et que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Gloire à Dieu! Voilà la fonction du sang. Mes amis, rien ne pourra vous nuire. Croyons à sa promesse. L'ennemi rôde, l'ennemi veut nous détruire, mais nous ne sommes pas démunis. Celui qui est en nous est plus grand. Le sang nous rappelle que Jésus a vaincu, et s'il a vaincu, nous vaincrons aussi. Alléluia! Et pour qui a-t-il vaincu Jésus? Vous croyez que Jésus a vaincu pour lui-même? Il n'avait pas besoin de vaincre le diable pour lui-même. Il l'a vaincu pour nous, à notre place. C'est pour nous, c'est à notre place qu'il l'a vaincu. Pour que nous, maintenant, en son nom, nous puissions résister au diable. Alléluia! Mes amis, le sang de Jésus est puissant. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est la mention du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus lui rappelle sa défaite éternelle. C'est sa défaite. C'est à la croix que le sang a coulé et c'est à la croix que le diable a été vaincu. Alléluia! Sa tête a été brisée. Il a été dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Mes amis, vous n'êtes pas démunis. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Réalisons la puissance qu'il y a dans ce sang. Réalisons qu'aucun ennemi ne peut tenir devant la puissance de ce sang. Alléluia! Prends courage, mon enfant. Prends courage! Ne te décourage point. Le Seigneur est avec toi. Ce sang a rendu Jésus vainqueur et ce sang te rendra vainqueur. Alléluia! Gloire à Dieu!
Une cinquième fonction du sang. Le sang unit cette fois toutes les cellules de notre être. C'est la fonction du sang. Le sang est là pour créer un certain bain dans tout notre être, un bain d'harmonie, d'unité entre toutes les cellules, tous les organes. C'est la fonction du sang. C'est dire, s'il n'y avait pas le sang, chacun irait de son côté. Nos membres, nos organes, il n'y aurait pas d'unité. C'est le sang qui produit cette unité en nous, dans tout notre être. Et que fait le sang de Jésus? Le sang de Jésus est là pour apporter cette harmonie au milieu de nous, pour apporter cet amour au milieu de nous, pour chasser tout ce qui est étranger à cette paix, à cette harmonie, cet amour, les ressentiments, la jalousie, la haine, les critiques, toutes ces choses-là ne peuvent tenir lorsque nous comprenons ce que le sang de Jésus signifie. Parce que le sang fait constamment l'harmonie du corps et de tout notre être. Constamment, le sang ne fait que cela. Est-ce que nous comprenons ce que Jésus veut faire dans nos vies? C'est de nous garder dans cette unité, dans cet amour, dans cette harmonie mutuellement. Amen. Voilà ce que le sang de Jésus fait. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Entre nous, il y a trois qualités dans l'amour. Je vous en ai déjà donné d'autres. Et la première qualité, bien sûr, c'est l'amour qui dit la vérité. Mais à côté de cela, je vais vous donner trois autres qualités pour nous aider à vivre dans une plus grande harmonie l'un à l'égard de l'autre. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13. La première qualité de l'amour, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, c'est quoi? L'amour est patient. Patient. Autrement dit, Dieu est patient. Soyons aussi patients envers les autres. Amen. Soyons patients. Patients envers les autres. L'amour est patient. L'amour laisse à Dieu le temps d'agir. Alléluia. Laissons à Dieu le temps d'agir. Oh, que de bêtises j'ai fait moi-même parce que je n'ai pas laissé Dieu. Chaque fois que j'ai voulu régler les problèmes moi-même sans patience, j'ai toujours fait du grabuge. Toujours. Mais chaque fois que j'ai appris à être patient, Dieu a pu intervenir et faire des choses merveilleuses. L'amour est patient. Deuxième chose, l'amour pardonne. Le vrai amour, c'est pardonner. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un quand on ne pardonne pas. Et pardonner, quand on dit qu'on pardonne, cela veut dire qu'on ne revient plus sur ce qui a été pardonné. Quand vous dites à quelqu'un, je te pardonne maintenant, on n'en parle plus. C'est fini. Ça, c'est le vrai pardon. Vous n'allez pas mettre le problème au frigo et servir la personne 2 mois après. Il y en a qui ne mettent pas ça au frigo, ils mettent ça au réfrigérateur. Ça dure plus longtemps. Au congélateur, pardon. Congélateur, oui. On met ça au congélateur, ça dure plus longtemps. Et puis on le sert 1 an après, 2 ans après. Je ne sais pas si ça peut durer aussi longtemps que congélateur, mais enfin. L'amour pardonne. Il n'y aura pas d'amour possible au milieu de nous si nous ne savons pas nous pardonner, n'est-ce pas? C'est impossible. Il y a, dans le vrai pardon, il y a cet élément de pardon. Dans le vrai amour, il y a cet élément de pardon. Autrement dit, celui qui ne pardonne pas, n'aime pas. N'aime pas. C'est pas vrai. Si tu n'as jamais pardonné, c'est que tu n'as jamais vraiment aimé. Tu n'as jamais vraiment aimé si tu n'as pas pardonné. Si tu n'as pas su pardonner. Tu n'as jamais vraiment aimé. Parce que le vrai amour coûte quelque chose, n'est-ce pas vrai? Et je termine une troisième qualité de cet amour qui permet de nous garder dans une harmonie, aussi bien dans le couple que dans nos églises. Il y a une qualité merveilleuse dans l'amour qui est le respect. L'Épître aux Romains nous dit, par prévenance, par amour, usez de
prévenance réciproque, par respect. Autrement dit, l'amour respecte l'autre. L'amour honore l'autre. Il y a un élément de respect dans l'amour qui malheureusement n'existe pas toujours, n'est-ce pas vrai? Les chrétiens devraient être les premiers à se respecter mutuellement, à se parler avec respect. Et cela, ça commence à la maison. Le mari doit parler avec respect à sa femme. Et là encore, si on ne le fait pas, on aura des histoires. Moi aussi, chaque fois que je ne l'ai pas fait avec ma gentille petite femme, j'ai eu des histoires avec elle. Et comme notre frère Mel Grams hier, j'ai dû aussi, plusieurs fois, aller demander pardon. Ça fait du bien. Et la femme aussi doit apprendre à respecter son mari. Ça, c'est une forme d'amour que Dieu demande à la femme. Très important. L'épître aux Éphésiens dit est que la femme respecte son mari. Une des plus graves erreurs que les femmes font, c'est ce manque de respect avec leur mari. Comprenez, elles connaissent bien le mari. Elles connaissent tous ses défauts maintenant. Au début, elles connaissaient toutes ses qualités. Mais maintenant, elles connaissent tous les défauts. Alors vous pensez, avec les défauts, c'est leur respect qui diminue. Plus de respect. Viens ici, mon vieux. Alors, tu viens, quoi? Avant, c'était, tu viens, chérie. Tu viens, mon prince charmant. Le prince charmant, il est plus... Il est endormi, maintenant. Il a besoin de ressusciter. Les femmes doivent apprendre cela. Chères épouses, écoutez-moi bien aussi. C'est ce que Dieu vous demande tout spécialement pour vos maris. Il a des défauts. Il a des faiblesses. Qui n'en a pas? Mais respectez-le. C'est quelque chose qu'il appréciera toujours en vous et vous montrerez dans son estime si vous le respectez, quoi qu'il arrive. Vous transformerez votre mari comme cela. C'est une manifestation de l'amour. Et si nous savons le faire dans nos foyers, apprenons-le aussi à le faire au milieu de nous. Amen. Soyons respectueux l'un à l'égard de l'autre. Finis ces regards méprisants, ces gestes qui blessent. Oh, combien cela fait du mal, n'est-ce pas vrai? C'est dans ces petites choses que nous devons veiller, mes amis, dans ces petites choses. Nous, les chrétiens, nous ne péchons pas dans des grandes choses. Ce ne sont pas les grands péchés, mais ce sont ces petites choses. Et que nous répétons continuellement et qui nous attristent. Si nous péchons dans les petites choses, il faut commencer à faire du bien dans les petites choses. Amen. Eh bien, dans le respect, dans ces petites choses, soyez fidèles. Soyez fidèles dans ces petites choses. Respectez, patientez, faites de petites choses pour le bien de l'autre. Et vous verrez que ces petites choses auront de grandes conséquences. Amen. Une petite clé peut ouvrir une grande porte, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Gloire au Seigneur. Mes amis, la vie est dans le sang. Est-ce que vous le croyez? Rien ne se fait dans notre corps sans le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Autrement dit, il n'y a pas de vie. Le sang de Jésus apporte la vie. Une vie tellement puissante que ce sang a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang, voyez-vous? Là, ailleurs, il nous a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité, n'est-ce pas? Mais ici, il est fait mention du sang. Comme pour dire, voyez-vous, tout est lié. Il l'a ressuscité d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une nouvelle alliance. Voyez-vous, la puissance qu'il y a dans le sang. Oh, que Dieu nous aide à mettre en pratique ces choses. La vie est dans le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais lorsque le sang est là, lorsque le sang fonctionne normalement dans notre vie, alors il y a de grandes délivrances. Le croyez-vous? Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions ainsi glorifier le Seigneur dans notre vie. Alléluia! À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur tous quelques instants. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Seigneur, il y a tant de choses que tu voudrais nous dire. Il y a tant de choses que tu voudrais nous donner. Ô Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs et nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner pendant cette convention. Tu nous as déjà bénis. Tu nous as bénis ce matin et tu veux encore le faire cet après-midi, ce soir, demain. Seigneur, à chaque réunion, tu es là. Ton sang est là qui veut nourrir chaque cellule. Ô Seigneur, selon les besoins de chacun, tu n'oublies personne. Tu es le bon berger, tu as donné ta vie pour chaque brebis, pour toutes tes brebis. Nous sommes tous aimés de toi. Nous recevons ton amour
et nous te donnons toute la gloire. Et merci pour la vie qui est dans le sang. Alléluia! Merci pour la vie abondante au travers du sang de Jésus. Une vie de victoire, de purification. Alléluia! D'harmonie, de vérité, de victoire. Loué sois-tu, que tout en nous glorifie ton nom, car tu es le Seigneur. À toi notre louange, au siècle des siècles. Amen.